Les cours du Collège de France, Louis Fensterbank, chaire Activation en chimie moléculaire.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce deuxième cours de cette session de 2024-2025 consacrée donc à la photochimie organique, photochimie organique de synthèse principalement. Aujourd'hui, donc, vous aurez un cours en premier, tourné autour beaucoup de l'activation du groupement carbonyle, et donc une conférence par le professeur David Daitken, qui est ici, que je présenterai plus en détail tout à l'heure, et qui va nous parler de la synthèse de cyclobutane fonctionnalisée, leur utilisation et cette chimie dans un contexte assez large, allant jusqu'à la biologie. Donc, on va voir pas mal de choses différentes. Et globalement, si j'avais choisi initialement cette réaction, cette 2 plus 2 sur laquelle on va revenir dans quelques instants, c'est que c'est probablement la réaction un peu iconique de la photochimie de synthèse, puisque, comme vous le voyez, on arrive à quelque chose de bicyclique en partant de partenaires très très simples, et une fois qu'on est là, on a un dérivé qui a beaucoup de potentialité. Alors en fait, dans ce cours, on va tricher un peu, on va parler des carbonyles, mais d'abord, le cours précédent, on parlait des alcènes. Et si vous conjuguez un alcène à un carbonyle, ça vous donne des énones. Et en fait, on va donc s'attarder un petit peu sur cette photochimie des énones qui sont particulièrement réactives. Donc les énones alpha-bêta insaturés. Donc, comme je dis, on va voir que c'est une vraiment très bonne méthode pour faire des cyclobutanes. C'est également une réaction qui a un très bon réseau contrôle, globalement bon. Qu'on peut surtout prédire, ça c'est important. On peut créer 400 stérogènes, et puis une fois qu'on est là, on a la possibilité de nombreuses, on va dire, dérivatisations, du fait qu'on a un cycle quand même tendu qui peut s'ouvrir, qu'on a un groupement carbonyle qui est lui-même encore très réactif, et donc on a de nombreuses applications. C'est pas étonnant que cette réaction a vu beaucoup d'applications en synthèse totale. Il y a nombreuses revues. Un des spécialistes de cette chimie, ça a été Michael Crimmins, que je vous montrerai tout à l'heure, et qui a écrit ses Organic Reactions. Vous savez, les Organic Reactions, c'est des gros volumes où on a, en fait, c'était très très exhaustif à l'époque. Il y avait pratiquement tous les exemples de réactions de 2 plus 2. Donc ça donne une bonne idée de l'étendue, même si ça date de 1993, ça donne déjà une bonne idée, mais il y en a des beaucoup plus récentes. Alors l'idée ici, si on revient un petit peu sur les considérations de la semaine dernière, c'est que donc on va parler donc de ces énones. Chose que je n'ai pas dite, mais le motif énone, il est évidemment très facile à accéder synthétiquement. Hein, c'est une réaction de crotonisation, aldol-crotonisation, va vous donner ces composés. Donc globalement, en partant d'une chimie assez classique, on arrive à ça. Et donc si on le soumet à un rayonnement lumineux, on a 2 transitions possibles. Une transition pipi étoile à 220 nanomètres et une à NP étoile à 350 nanomètres. Et ce qui distingue globalement ces transitions, c'est évidemment la longueur de liaison, mais on va le voir un petit peu après aussi, c'est le epsilon, puisque globalement, le epsilon dans une NP étoile, du fait qu'on ne conserve pas la symétrie orbitalaire, sera généralement beaucoup plus petit, alors que là, une pi étoile, on reste dans le système pi, et donc le epsilon, lui, sera beaucoup plus grand. Mais le problème, évidemment, c'est qu'il faut taper à 220, ce qui peut être aussi une source de problème. Donc globalement, on fera cette chimie dans les 300 et quelques nanomètres, 350 nanomètres, et on va promouvoir un état singulé ici, que l'on voit, donc avec promotion d'un électron ici dans cette pi étoile, en partant de l'orbital n. Et d'une façon générale, là, on a un croisement intersystème, donc un ISC, qui est très favorable. Et donc, on va arriver à un état triplé ici, qui va globalement faire toute la chimie de ces dérivés. Donc ça, c'est assez bien balisé et décrit. Donc, d'une façon générale, si on regarde la réactivité de ce genre de système, c'est... On excite. Globalement, on peut voir cet intermédiaire excité comme un diradical, initialement singulé, puis croisement intersystème pour évoluer vers le triplé. Ce triplé va, lui, interagir avec une oléphine. Alors, c'est là qu'on va voir qu'il y a plusieurs quand même théories là-dessus. Celle qui a été proposée initialement, c'est de former un hexiplex entre l'ALSEN et ce triplé, qui conduit à la formation d'une liaison carbone-carbone, et globalement deux radicaux ici qui vont, pour se, on va dire, reformer une bonde, il doit y avoir une inversion de spin, et donc former ce produit. Donc globalement, vous voyez ici qu'on peut avoir deux régioisomères, donc le tête-à-tête, comme ici, ou le tête-à-queue, et évidemment l'électronique du groupement R, ici, va être le facteur qui va diriger cette régiosélectivité. Globalement, ce que vous voyez, c'est que quand on a un donneur, ici, on va favoriser le tête-à-queue, alors que si on a un accepteur, c'est l'inverse, on va favoriser le tête-à-tête, et vous voyez quand même, les rapports sont assez favorables, enfin je veux dire, il y en a un qui est très très majoritaire, même si ce n'est pas exclusif. Comment rationaliser cette régiosélectivité? On va voir qu'il y a eu plusieurs théories successives, et ce qu'il faut surtout, on va dire, pour vous, peut-être, probablement, c'est d'avoir le message en disant, si je mets une cyclohexénone et si j'ai une oléfine, en regardant l'électronique de l'oléfine, quelle régioisomère je peux attendre de façon sûre, quelle que soit, j'ai envie de dire, la théorie derrière. Parce qu'en fait, ce qui est important aussi, c'est une prédictibilité, de pouvoir prédire les produits de réaction. Alors, juste quelques scopes, un petit peu, juste pour montrer un petit peu. Ce n'est pas forcément des applications les plus marquantes, je vais en montrer d'autres après. Mais juste pour vous montrer que les partenaires qu'on peut engager dans ces réactions sont très variés. Par exemple, même des molécules gazeuses comme cette haleine à basse température peuvent faire la 2+2. Et là, on a un méthylène hexo aussi avec une cétone. En fait, ça, c'est une entité fortement réactive. Donc, dans cet article-là de Kakyushi, il prend ce produit-là, il fait un réarrangement acide et donc il arrive à ce produit naturel. On peut aussi engager de l'éthylène, d'ailleurs bon, c'est quelque chose que vous avez fait dans le laboratoire de David. Je voulais aussi montrer ces deux exemples parce que quelqu'un m'a dit « mais est-ce qu'on peut faire des 2+2 avec des alcynes ?» Ma réponse était « oui, mais sans exemple précis ». Donc en voici une, elle est intramoléculaire, et là on n'est pas du tout dans le cadre d'une cyclohexénone ou d'une énone. Ici on a un système qui s'en rapproche, même si c'est un anhydride, mais globalement ici on peut faire une 2+2 intramoléculaire pour engendrer ce cyclobutène. En fait, l'étude de cet article-là pour Booker Melbourne, c'est de faire ces composés avec une extension de cycle. En fait, il fait une transestérification de l'anhydride qui transforme en méthylester. Et ça libère le cyclobutène ici, va faire une ouverture conrotatoire comme on a vu la semaine dernière, et donc conduire à l'extension du cycle. Mais tout ça, ici, ce qui est important de voir, c'est que globalement, on a une 2+2 qui est relativement efficace. Et donc, vous voyez, même avec un alcyne fonctionnalisé par un alcool, pas de groupe protecteur, une fois de plus, hein, ça aussi, c'est important, on n'a pas besoin de groupe protecteur en photochimie. Hein. On peut même travailler dans des conditions parfois encore plus vertes. Alors, donc, d'où vient l'hexiplex? En fait, probablement le premier qui l'a formulé, c'est Elias James Corey, dont on a parlé deux, trois fois, parce que c'est difficile de parler de chimie organique sans tomber sur les travaux de Corey, qui a eu le prix Nobel en 1990 pour toute sa contribution à la chimie organique. Comme vous le voyez, il est né en 1928, donc vous voyez qu'il a un âge quand même tout à fait raisonnable, donc la chimie organique conserve, surtout si on a le prix Nobel, globalement. Et ce qui caractérise beaucoup la carrière de Corey, c'est qu'il a vraiment touché à pratiquement tous les domaines de la chimie organique, dont la photochimie. Et donc, sa théorie est la suivante, c'est qu'on part donc dans l'état fondamental, on obtient un état excité. Cet état excité, en fait, a une polarisation inverse du ground state, puisque le ground state ici, vous voyez, il est delta moins, delta plus, alors qu'ici, à l'état excité, en fait, on va peupler l'orbital au-dessus et on va inverser les coefficients orbitalaires, et donc on va maintenant avoir delta plus, delta moins ici. Et donc, globalement, si on approche, on forme un hexiplex avec l'oléfine, et globalement, si on a un groupement électro-donneur, on va privilégier cette orientation de l'oléfine pour avoir un match aussi entre le delta plus et le delta moins, et le delta plus ici, delta prime plus ici, et le delta moins, et donc obtenir ce produit. Et inversement, si on en a les fines acceptrices, on va privilégier un match ici et entre ces deux pour obtenir ce produit. Donc c'est simple, ça marche très bien et globalement c'était assez séduisant. Alors ça a été démenti par un certain nombre d'études, mais d'une façon générale, je reviendrai là-dessus, gardez bien en tête cette slide, parce qu'en fait elle est très utile, parce que ça va nous permettre quand même de prévoir d'une façon générale les réactivités, parce que finalement c'est globalement comme ça qu'on peut anticiper les régions isomères. Donc ça a été démenti par Schuster et Thoreau là, en 88. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cet article parce que c'est un article de chimie physique organique bien costaud avec beaucoup de rendements quantiques, en disant que Corée s'est trompé sur le système orbitalaire qu'il a utilisé, qu'il n'a pas regardé les quenchings de fluorescence des systèmes. Bon, donc il démente le Lexiplex en tout cas. Et il y a une autre étude qui est assez intéressante et qui, par certains côtés, rappelle un petit peu le cours de l'année dernière en chimie radicale R, c'est qu'il a fait ce genre de réaction en présence d'un donneur d'hydrogène extrêmement rapide, donc qui est ce dihydrure de sélénium. Et donc, en prenant la cyclopentanone ici et ce vinyle éther, le produit, le mélange de réactionnel qu'on obtient, c'est ces deux composés bicycliques, ou de façon logique, on obtient donc le tête à queue majoritaire. Et ça, c'est basé, si on peut l'expliquer, par la théorie d'Exiplex que je vous ai montré facilement. Mais une chose intéressante, c'est que si maintenant on fait ça donc en présence de ce donneur d'hydrogène, on obtient un mélange de quatre produits où globalement on a greffé l'alcène ici sur ce carbone en créant une insaturation. Et si vous calculez cette proportion, ça fait 6,7. Et on a aussi un mélange de ces deux cyclopentanones où on a greffé maintenant, on a fait notre première liaison carbone-carbone ici, et avec aussi le produit insaturé. Et si vous additionnez 3,2 plus 3,5, ça fait aussi 6,7. Donc autrement dit, on a moitié-moitié de produits où on a d'abord une liaison initiale carbone-carbone ici, et l'autre sur le carbone en alpha du carbonyl. Alors comment expliquer d'abord la formation de ces produits? Donc a priori, donc on passe par le diradical qui fait une addition radicalaire sur cette oléfine. L'hydrure de sélénium a deux possibilités, donc soit il peut réduire ses radicaux, on obtient ces produits là quand il donne un hydrogène, on forme un radical sélényl, donc centré sur le sélénium. Et ce radical sélénium peut lui arracher donc l'hydrogène qui est ici et créer la double liaison. Donc c'est pour ça qu'on a ces produits insaturés, c'est par arrachement de l'hydrogène ici. Et pareil ici pour expliquer la formation de ces deux produits. Globalement, donc on a arrachement d'un hydrogène ici par le radical sélényl pour former ça. C'est une des explications, il y en a potentiellement d'autres. Réduction ici des radicaux. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est que ce que ça suggère, c'est que la première étape, finalement, on forme ces liaisons carbone, mais de façon complètement non discriminante, puisqu'on a autant de l'attaque ici que ici, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment cet effet de polarisation qu'on avait invoqué tout à l'heure. Et donc, ce que dit Whedon, celui qui a fait l'étude, c'est qu'en fait, d'ailleurs j'ai mis... la régiochimie de la réaction, elle est déterminée par l'étendue, l'étendue dans laquelle les produits, les intermédiaires biradicalaires, soit reviennent vers le starting material, se recombinent pour former le produit final. Donc en fait, globalement, une première étape non discriminante, mais après, on a des équilibres, on revient sur le produit de départ ou pas, ou on referme les cycles, et c'est ça qui créerait donc le mélange que l'on voit. Là, il dément en disant que l'orientation qui a été proposée donc, par les réactifs dans un complexe exiplex, dans un exiplex, ne peut plus être, est démentie par cette série d'expériences. Cette théorie n'a pas été, elle, démentie. Mais comme je vous invite à le faire tout à l'heure, comme je vous ai dit, moi je vous conseille de garder quand même ce schéma réactionnel dans le vue de prévoir vos régiosélectivités dans une 2 plus 2. Alors on peut le voir aussi par les coefficients orbitalaires, en m'inspirant d'ailleurs du cours de Mathieu Sologoub et du livre de Jonathan Clyden. Modifié, mais globalement on a un système alcène. Si par exemple on prend le butylène ici, diméthyléthylène, donc les coefficients dans la HOMO, le gros coefficient va être sur l'oléfine, le carbone de l'oléfine terminale ici, et alors que là le gros coefficient sera ici sur ce carbone. Et globalement, l'UMO va interagir avec la HOMO de l'étonne, en fait la SOMO dans ce cas-là, parce que ça sera une orbitale, c'est une single occupied orbitale. Et donc on a un recouvrement des lobes pour donner donc là aussi ce régio-isomère. Donc c'est une autre façon de le voir, généralement assez peu invoqué d'ailleurs, probablement parce que ce n'est peut-être pas aussi général que ça. Alors, régio, on en a parlé. Stéréosélectivité, on va le voir, même si globalement vous avez compris aussi que si on passe par des états triplés, on a donc des diradicaux, et donc globalement on a probablement des réactions qui ne seront pas toujours stéréo-spécifiques, donc on peut avoir quand même des mélanges de stéréo-isomères assez facilement. Donc si on part alors là c'est un exemple ici, déjà juste pour montrer que on peut faire de la 2 plus 2 sur des molécules même relativement, on va dire, exotiques comme ce C60. Le C60, beaucoup de gens aiment le dire avoir des dérivés du C60 parce qu'il y a des propriétés optiques intéressantes de transfert d'énergie, de transfert électronique. Donc globalement, en l'habillant par d'autres molécules, on peut moduler les propriétés, on peut faire aussi des hybrides. Et donc, cette 2 plus 2 ici, globalement, avec cette cétone alpha-bêta insaturée, enfin même encore plus d'ailleurs, donne deux produits. L'un où c'est cette double liaison qui a réagi minoritairement, mais sous la forme d'un seul diastéréoisomère, ou globalement, ici, ce produit majoritaire. Alors en fait, c'est une réaction qui est assez compliquée parce qu'il y a des équilibres qui sont en jeu. Et donc, si on prend les produits, on peut revenir en arrière et ainsi de suite. Donc, globalement, ça reste... d'un aspect synthétique probablement un petit peu discutable. Mais tout ça pour montrer qu'on peut aller assez loin dans l'exemplification de la 2 plus 2. Alors, si maintenant on a une partenaire oléfine avec un biais stérique assez important, comme ce groupement isopropyl, et que vous irradiez ces deux partenaires, vous pouvez avoir les deux régio-isomères, parce que par contre, là, au niveau électronique de la double liaison, là, il n'y a pas une différence énorme. Donc, vous allez obtenir les deux régio-isomères, comme on le voit ici. Excusez-moi. Donc, on voit bien les deux régio-isomères. Je m'attendais à inverser les alcènes, mais c'est les cétones qui ont été inversés. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau du stéréocontrôle, vous avez à chaque fois, globalement, un produit où on minimise l'interaction entre le cycle ici et cet isopropyl, puisque globalement, on a quelque chose comme ça. Bon, si je prends le premier isomère qui est dessiné, donc globalement, un peu un système en escalier ici, où cet isopropyl est relativement loin du cycle qui est ici. Et donc, globalement, on a un bon contrôle par ce groupement stéréogène. Et ici, c'est la même chose. Globalement, on a une bonne stéréosélectivité faciale où on va minimiser l'interaction entre le cyclohexène ici et ce groupement particulièrement volumineux par rapport au méthyle. Donc, on peut avoir ce genre de sélectivité, ce qui peut être utile si, par exemple, évidemment, si votre centre ici est contrôlé, ça veut dire que du coup, si vous avez un seul énantiomère ici, ça veut dire que globalement, vous allez avoir un seul énantiomère de votre composé tricyclique ici. Alors, on peut aussi faire de l'intramoléculaire, et c'est probablement là qu'il y a eu pas mal d'applications également. Avec des applications, on peut avoir la 2 plus 2, on va dire, directe, celle qu'on anticipe, où on fait le cyclobutane comme ça. Mais on peut aussi, et c'est là toute la beauté de la photochimie, faire ce produit où globalement c'est la double liaison ici qui est rentrée pour se conduire à cet isomère bent et avec des rendements qui peuvent être dans certains cas tout à fait bons. Donc l'intramoléculaire, on va en voir un certain nombre d'exemples, elle était beaucoup utilisée parce qu'elle permet de conduire à des systèmes polycycliques vraiment de façon très très efficace. Donc voici par exemple justement une application par Krimitz, produit de départ relativement simple, globalement un peu de la chimie de crotonisation pour arriver à ce précurseur, et puis donc une 2 plus 2 à 366 nanomètres, hein, un peu comme on a dit. Et cette 2 plus 2 conduit à ce cyclobutane. Donc là, vous voyez, on a un édifice qui est particulièrement tendu quand même. On a 3 cycles à 5, un cycle à 4. Et ce dérivé va pouvoir être fonctionnalisé encore un peu plus. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que tout ça, c'est complètement stéréo-contrôlé. En fait, ce qui contrôle ici aussi, c'est les jonctions de cycle, hein, clairement. Et on peut ouvrir ce cyclobutane en utilisant du TMSI. Dans un rendement qui est quand même tout à fait correct, et donc on a maintenant ce dérivé primaire iodé qui peut être déiodé. Alors là on arrive à une cétone, et la target ici c'est ce sylphinène qui est un produit naturel. Donc il faut introduire de façon sélective la double liaison ici, ce qui n'est pas si évident que ça quand vous regardez bien, parce qu'en fait on peut évidemment la faire là. Et d'ailleurs, donc l'option qui a été choisie par Krimitz, c'est de passer par un énolate qu'on réduit. Et en fait, ils se sont battus énormément sur les conditions pour faire le bon énolate, parce que si vous prenez simplement LDA en conditions cinétiques, à moins 78 degrés, en fait, vous allez avoir les deux énolates qui peuvent être formés dans un rapport 50-50. Et donc, en se mettant dans des conditions LDA avec du terbutanol, autrement dit des conditions thermodynamiques, qu'on va faire l'énolate thermodynamique, même si, bon, pas complètement évident qu'il soit thermodynamique quand on le regarde comme ça. Et on piège avec ce chlorophosphine phosphonate. On obtient cet énolate et lui peut être réduit par du lithium avec de la méthylamine. Donc les rendements là sont très bons. Et ça correspond à une réaction de Shapiro aussi, c'est le même genre de bilan. Ça s'est inspiré des travaux de j'ai oublié son nom, qui était en Suisse à Genève, mais Oppolzer pour former donc ces doubles liaisons. Voilà, donc voici une première exemple de synthèse. Alors celle qui est une synthèse, on va dire un petit peu là aussi emblématique, et puis j'aime bien donner en cours de M2, et puis surtout qu'elle redevient intéressante parce qu'il y a mon texte a un petit peu bougé, c'est vraiment rapproché fortement du cubane, mais il y a un intérêt énorme sur tout ce qui est cubane et tous ces composés-là, parce qu'en fait c'est des bioisostères de noyaux aromatiques, et donc une grande partie maintenant de la pharma actuellement introduit ces motifs-là sur des molécules bioactives et pour voir donc toujours échapper du flatland. Et donc, comment les introduire? Mais bon, la synthèse historique du cubane a été faite par Eaton dans ce JAX par la séquence suivante. Il a fait quelques améliorations de la synthèse. Alors, le cubane, à ma grande surprise d'ailleurs, est un solide. Il y a même une structure cristalline que je n'ai pas été voir. Mais alors, de quoi part-on? En fait, on part d'abord de la dimérisation de cette cétone, on fait une disale d'air de cette dienone. Et ensuite, on protège un décarbonyle par un acétal, très bien. On fait une 2 plus 2 intramoléculaire, donc globalement N et non. Vous voyez qu'on arrive à une molécule qui est quand même déjà particulièrement complexe. Ce qui est impressionnant, c'est de voir le rendement, 95%. Et puis, ensuite, on fait un rangement qui nous permet d'extruder, alors déjà d'enlever ce brome, mais surtout de construire le cyclobutane ici. Donc, autrement dit, on va former une liaison carbone-carbone ici. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de déprotoner ici, et ça élimine le brome. Et ce qui vous fait un intermédiaire cyclopropanone, et en milieu KOH, en fait, on fait l'acide carboxylique, et donc c'est ce qu'on appelle un rangement de Faworski. Donc, vous pouvez regarder, c'est une vieille réaction, mais qui est quand même très puissante. Donc la page Wikipédia est très belle. Bon, alors Faworski, Y ou I, selon les... Enfin bon, dans les deux cas, vous retomberez sur le bon. Des conditions hyper simples en plus. Donc, une fois qu'on a cet acide, on va vouloir décarboxyler. Et donc, initialement, transformation en acide chlorure. Puis, on fait un père-ester. Donc, globalement, on fait un composé avec une liaison CO-CO, ici. Enfin, pardon, oxygène-oxygène. On chauffe ce composé dans le cumen. Le cumen, hein, c'est l'isopropyl benzène. Donc c'est un solvant qui permet évidemment de chauffer beaucoup, mais qui a aussi la propriété d'être donneur d'hydrogène par cet hydrogène ici, qui est relativement activé parce qu'il est benzylique. Dans ces conditions-là thermiques, en fait, on clive la liaison oxygène-oxygène qui est ici, et on forme un radical CO au point. Donc on a notre intermédiaire cubane globalement, peu importe, je l'écris comme ça. Enfin, même si c'est le dernier, c'est pas grave. Donc ça, en fait, ça va décarboxyler assez rapidement pour donner un radical ici au pied du cyclobutane. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez bien, alors c'est celle-là dont je vous parle, mais ici c'est le même principe, hein, parce que ici c'est on clive ces paires esters pour obtenir ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'on a vu, c'est que ce radical, théoriquement, il est en alpha d'un cyclobutane, il pourrait s'ouvrir et fragmenter, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas alors qu'on est quand même à 150 degrés. Alors bon, évidemment, certes, le rendement est de 30%, donc on ne sait pas quels sont les produits secondaires, et certainement, il y en a un certain nombre. Mais il y a un mauvais d'abord, l'alignement des orbitales n'y est pas favorable, et bon, le diisopropyl benzène doit quand même être un donneur d'hydrogène suffisant pour aussi probablement calmer cette ouverture, qui d'ailleurs n'est pas la plus rapide, hein, c'est beaucoup moins rapide que l'ouverture d'un radical alpha-cyclopropane. Donc une fois qu'on a ça, ben, on fait la même chose, en fait on déprotège l'acétal, on refait un Faworski, et donc cette décarboxylation pour obtenir ce cubane. Et quand on fait la Barton décarboxylation, donc c'est une version, on va dire, plus récente par Eaton, c'est que globalement, au lieu de passer par ces paires esters, il est passé par des éthers thiohydroxamiques, donc globalement des dérivés comme ça, donc les esters de Barton. Et ça, en fait, dès qu'on chauffe ou qu'on irradie, on clive la liaison ON, et ça décarboxyle aussi. Donc ça améliore les rendements et ça a permis d'avoir des conditions un petit peu plus douces, parce que ça, c'est en fait, c'est presque trop facilement clivable. C'est tellement activé que là, on va avoir cette liaison ici oxygène-azote qui va rompre assez facilement. Alors donc Crémins, j'en ai parlé, donc le voilà. Et professeur émérite à l'Université of North Carolina, Chapel Hill. J'ai pas mis sa date de naissance, mais elle est également honorable. Donc, donc lui, il a fait beaucoup de synthèses de produits naturels. Et peut-être que celle qui est la plus remarquable, c'est celle des gynécolides. Publiée dans un full paper dans les années 2000. Sauf que c'est un travail qui a mis plus d'une dizaine d'années. Ce qui est impressionnant aussi, j'aurais pu mettre la liste des auteurs, il n'y avait pas énormément d'auteurs, il y avait peut-être deux ou trois thésards sur le papier. Quand vous voyez la complexité de la molécule, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cycles, c'est aussi pratiquement, a priori, en tout cas je n'ai pas trouvé d'autres exemples, et bon, je ne suis pas non plus cherché, mais c'est la seule famille de produits qui a un groupement terbutyle sur le squelette. Les produits naturels avec un groupement terbutyl sont extrêmement rares, à part ces ginkgolides. Alors, ils sont extraits du ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus. Très bel arbre, surtout à l'automne, hein, qui est magnifique, doré. Il y en a des très beaux au parc Montsouris, par exemple, mais aussi ailleurs. Et globalement, c'est le principe. Alors, les gynécolines, il y en a plusieurs. Un certain nombre se retrouvent dans des médicaments comme le Gynkorfor. Donc là, c'est des vénotoniques ou Tanacan, c'est pour protéger, c'est des neuroprotecteurs. Enfin, la palette d'activité biologique, elle est assez importante. Une des étapes clés de la synthèse, sur laquelle je ne vais pas revenir parce que le nombre d'étapes est conséquent, 25, c'est cette 2+2 intramoléculaire, 100% de rendement. C'est vrai que tel qu'elle est écrite, on a l'impression que ça se fait tout seul, mais donc qui va construire ce composé tétracyclique qui est déjà un précurseur relativement avancé, même s'il y a encore pas mal de fonctionnalisation derrière. Donc, une belle illustration de la puissance synthétique de la 2+2. Et globalement, je voulais juste. J'étais un peu curieux sur cette biosynthèse des gynécolides. Et donc, Wikipédia renvoie un certain nombre de choses, mais il y a aussi un article qu'on peut trouver grâce à Wikipédia. D'ailleurs, j'ai pas mis la ref. Mais bon, globalement, là où le groupement terbutyl est introduit, c'est qu'on va avoir un rangement 1-2 au niveau ici. Donc, tout ça, c'est sous contrôle d'enzymes. Et en fait, en faisant ce rangement de ce shift alkyl, cette transposition de groupement alkyl 1-2, ça induit une contrainte qui fait qu'en fait on a une rupture de cette liaison carbone-carbone et on a introduit ici donc le groupement terbutyl ici sur le squelette. Donc c'est assez exceptionnel, mais sinon le reste de la biosynthèse est assez classique en partant du géranyl, pyrophosphate et ainsi de suite. Alors une autre famille de produits, on a beaucoup de cyclobutane, on a déjà parlé la semaine dernière, mais on l'avait vu sous l'aspect des dérivés hautement énergétiques. Puisque là il y a une tension de cycle de environ 120 kcal, mais il y a aussi un produit naturel, et d'ailleurs il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, c'est donc l'acide pentacycloanamoxique qui est en fait la membrane dans un compartiment qui s'appelle l'anamoxosome qui se retrouve dans un certain nombre de cellules, de bactéries, des bactéries dites anamox, et ces bactéries sont globalement beaucoup dans les fonds marins et contribuent au cycle de l'azote, parce qu'en fait le cycle ici c'est que on libère du azote en prenant donc l'uptake ici se fait à partir du nitrite et de l'ammonium, et donc on a une suite à la fois de réduction du nitrite et d'oxydation de l'ammonium pour conduire à ce N2. Et dans ce cycle enzymatique, un certain nombre de produits sont formés, comme cette hydroxyamine et l'hydrazine, qui sont très très toxiques. Et donc la cellule, pour se protéger où a lieu ce cycle, a créé ces membranes très très denses pour éviter justement l'échappement de ces produits chimiques, de ces alluies, enfin ces produits qui sont toxiques. Donc, c'est quelque chose qui a été découvert fin des années 90, années 2000, principalement par un institut en Hollande. Et il y a eu quelques groupes qui ont osé s'intéresser à certains totales de ce produit. Donc, Corée, qui a fait deux JAX. Voici donc la séquence qu'il propose. Je vous en montrerai un autre. Parce que globalement, introduire ces cyclobutanes, évidemment, on a vu que la photochimie s'y prêtait particulièrement bien. Alors, donc, une 2+2 ici, avec le cyclobutène. Après, on va introduire un diazo ici, en fait, qui va nous permettre... une fois de plus, il y a une autre réactivité photochimique que je traiterai un petit peu dans le prochain cours. En fait, ça va nous permettre d'engendrer un carbène ici et de faire un rangement de Hardy-Einstedt, donc une contraction ici. Et puis globalement, là justement, on va faire une décarboxylation de Barton, comme on va faire un ester de Barton ici, mais par contre le radical ne va pas être hydrogéné dans ce cas-là. Il va, vous voyez, il y a du BrCHCl3, donc en fait il va être bromé. Donc on va former un intermédiaire ici bromé, qui va être ensuite une élimination E2, permet d'introduire ce cyclobutène, qui est lui-même engagé dans une nouvelle 2+2 photochimique. Donc vous voyez, on y va. Et celle-là, ça a une sélectivité faciale grâce... Là, on engage un composé énantiopure, et donc du coup, on va avoir un seul énantiomère de ce composé polycyclique. Bon, je ne vais pas aller forcément sur toutes les étapes, mais globalement, on arrive à ce composé polycyclique, on refait une contraction de cycle comme ici, et puis on a un aldéhyde, en fait, on fait une réaction de Wittig, globalement, Horner, Wartzburg, Simons, qui permet d'introduire la chaîne latérale. Et donc, cet acide pentacycloanamoxique a pu être obtenu de façon correcte, mais surtout sous la forme d'un seul énantiomère. Alors, ce qui est important, c'est qu'à l'époque où Corée a fait cette synthèse totale, les configurations absolues de ces produits naturels étaient absolument inconnues. D'ailleurs, on ne savait même pas s'ils étaient présents sous la forme d'un racémique ou d'un seul énantiomère. Donc, c'était juste, on fait un énantiomère en se disant « ça servira bien un jour ». Ce que je voudrais dire aussi, c'est que évidemment, ces synthèses totales sont très très loin là du coup de la biosynthèse de ce produit naturel, parce que vu vu ces bactéries, la probabilité que ça soit photochimique, la voie de biosynthèse, c'est très très faible. C'est certainement une autre voie, parce qu'il n'y a pas de lumière là, probablement où vivent ces bactéries. Et donc un autre article plus récent, mais alors là beaucoup plus loin dans la synthèse et aussi l'analyse même biophysique. Donc c'est cet article par Burns, qui est vraiment magnifique. Là non plus, je ne vais pas revenir sur toutes les étapes, mais elle s'appuie évidemment très fortement aussi sur la photochimie et la 2+2 pour construire les cyclobutanes. Et en partant donc ici de ce composé, on va former déjà ce type de bicycle ici. En fait, on fait pratiquement l'équivalent de la Favorsky, mais on crée juste cette liaison. Et en chauffant, ça extrude le SO. Donc c'est connu avec les sulfones, c'était moins connu avec les sulfoxydes. Je reviendrai sur cette 2+2 ici en présence de sel de cuivre, parce que c'est une réaction qui est très pratique. Je ne l'ai pas encore abordé, mais ça, ce sera dans le cours sur la photocatalyse. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'une fois qu'on a ce composé, c'est comment introduire la double liaison ici. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est une CH activation sur un des cyclobutanes de façon totalement régiosélective en utilisant les procédures de Groves avec les complexes de porphyrine manganèse. Et puis donc on introduit un sel point, un sel, et puis une élimination. Et maintenant il faut passer. Là on est encore en racémique. Et comment introduire avoir un sel énantiomère? En fait, il va y avoir une désymétrisation en faisant une hydroboration asymétrique qui permet d'introduire ce groupement bépine. Et donc une fois qu'on a là, on a qu'un seul énantiomère. Et l'étape qui est assez intéressante, c'est la suivante. C'est ce qu'on appelle une oléfination de Zweifel. Donc le principe de cette oléfination, c'est on a un composé donc bépine, et ici on va introduire donc un vinyl lithium. Donc on va obtenir le complexe HAT. Et en fait, donc on est là, donc peut-être que je devrais Ensuite, ils mettent du NBS qui va en fait permettre de former le bromonium ici. Et ce qui va se passer, c'est que globalement, on va avoir une migration maintenant du groupement R ici pour obtenir. C'est d'écrire. Sauf que j'ai perdu ma double liaison. non, c'est bon. C'est moi. Ouais, ici, j'ai perdu mon vinyle. Ici, il y a une double liaison. J'ai plus de double liaison. Et donc ensuite, on a le méthylate qui vient attaquer le boronate. Et on a ça qui se rabat. Et donc, on crée la double liaison. Donc ça, c'est Le seul problème de cette oléfination, c'est que globalement, elle n'est généralement pas très stéréosélective. Mais par contre, c'est assez intéressant parce que justement, ce qui est bien, c'est qu'on peut introduire assez facilement des groupements boronates. Donc là, on a un mélange, mais peu importe, puisqu'en fait, on le réduit. Donc ça nous fait le premier acide carboxylique. La deuxième partie va être synthétisée. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais par des chimies qui sont assez proches. Et donc on a maintenant cet alcool, 600 mg, 100 mg. Et en fait, il va coupler, faire le couplage de toutes les entités en partant de ce triol avec deux alcools protégés. Donc avant, ça c'est un échantillon qui vient de la biomasse et ça c'est l'échantillon qui a été synthétisé précédemment. Donc c'est lui. Et il va comparer en fait les deux configurations absolues. Donc on sait a priori que on a le même genre d'alpha-D, donc on est sur la bonne série. Et donc ensuite, il fait ce couplage successif. Alors d'abord, il déprotonne ici et il met 25. 25, en fait, c'est sous la forme d'un... Il doit être en fait sous la forme d'un mésylate, je crois. Oui, c'est ça. Ensuite, avec HCl, il déprotège le groupement trityl, donc ça libère un alcool. Et cet alcool fait un couplage avec l'acide carboxylique qu'on a vu tout à l'heure, donc lui. Voilà. Et ensuite, il reste le troisième hydroxy qui déprotège avec du DDQ. Et cet hydroxy, en fait, substitue le chlore ici. Et en fait, dernière étape, on met de la triméthylamine qui va ouvrir ce cycle ici pour former donc ce phospholipide avec un vitre ionique, avec un ammonium. Et donc ça, c'est c'est un des phospholipides naturels. Et donc, ils se sont amusés à regarder comment ces lipides s'organiser. Et notamment, ils ont montré qu'on pouvait avoir des vésicules particulièrement importantes assez facilement. L'auto-organisation de ces molécules est très facile. Voilà, donc on va rester sur une 2 plus 2, mais un petit peu particulière, avec un système énone lui aussi particulier, puisque globalement, le système énone ici, c'est un dicarbonyle qui est présent sous la forme énol, et donc c'est ce qu'on appelle une réaction de deux maillots, où donc globalement, cette double liaison ici est assurée par l'énol. Et le principe de cette réaction, c'est qu'on fait une 2 plus 2, on obtient ce composé ici qui en fait fragmente très facilement pour donner des dicétones 1,5. Donc des maillots, un chimiste britannique mais émigré au Canada. Et c'est une réaction qui est actuellement assez. Il y a pas mal de développement sur cette chimie parce qu'en fait elle est relativement puissante et elle autorise pas mal de fonctionnalisation. Le mécanisme ici, donc on irradie ce système énol, il fait une 2 plus 2 avec un alcène régio-sélective et on forme donc un intermédiaire ici, cyclobutanol avec ce dérivé acyle qui se rouvre en rétroaldol pour former donc pour former ces 17-1-5. Voici un exemple ici, on a cette 2 plus 2 ici dans un système non pas acyclique mais cyclique, mais ça marche aussi. Sauf que là, la régiosélectivité, comme vous voyez, n'est pas bonne. Mais néanmoins, celui-là peut être transformé dans le produit naturel ici, hirsutène. Et puis en voici une autre qui est intramoléculaire, où on a cette 17 tonnes ici qui peut s'additionner sur cette N-amine pour former ce genre de dérivé. Et là, donc, on arrive sur des familles de produits qui sont assez intéressantes, des alcaloïdes assez classiques et qu'on peut parler d'activité biologique. Et bon, on y arrive vraiment assez facilement. Alors, les développements de la DMAIO, ça a été aussi, en fait, on l'a vu au cours dernier, c'est de faire du transfert d'énergie et comment promouvoir ces réactions de 2+2 par transfert d'énergie, parce que ça permet de travailler dans ce cas-là avec un photocatalyseur dans des conditions beaucoup plus douces. Comme il y avait l'intérêt pour cette chimie, ça a été développé initialement par Marceau et Koenig avec cette 17 tonnes ici et le styrène. Donc là, le produit est. Et évidemment, il n'y avait pas de problème de régiochimie, mais globalement, on peut aussi avoir de la régiochimie. Mais bon, dans ce cas-là, on se met dans des conditions où l'état triplé du photocatalyseur est supérieur à celui aux états triplés des deux partenaires, soit l'oléfine ou soit l'acétone, la 17 tonnes. Glorious a publié un petit peu après la même chose. Avec des cétones activés ici et différents alcènes en utilisant cet iridium comme photocatalyseur. Donc d'ailleurs, voici un exemple avec l'éthylène ici comme partenaire de la photochimie. Donc dans ce cas-là, le dérivé qu'il avait utilisé ici, c'était un cétoester, donc le carbonyle ici et l'ester ici qu'on retrouve ici, et avec insertion donc de l'éthylène. Tout ça dans des conditions particulièrement douces. Donc vous voyez, c'est une chimique assez intéressante. C'est surtout, si on rétro-synthétiquement, comment envisager ça, c'est pas si évident que ça, finalement. Puis là, un article assez intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en utilisant ces sels de zirconium, zirconium 4, on n'avait pas besoin de photocatalyseur, et en irradiant avec une LED bleue, on obtient les réactions de DMAIO, parce qu'en fait, l'intermédiaire lénolate de zirconium à lui-même des propriétés, peut être photoactivé et donc promouvoir la réaction. Donc c'est assez rare ce genre de publication, et peut-être que finalement c'est quelque chose qui devrait être aussi regardé d'un peu plus près. Est-ce qu'on peut faire des photocatalyseurs à base de zirconium ou des choses comme ça, puisque là il y a quand même des ressources assez abondantes, en tout cas probablement plus que d'iridium. Alors, un autre système qui était assez intéressant, c'était celui de Marceau et Allemand, où là, ils ont vraiment modifié vraiment les partenaires en prenant ces ASA-ARN et en mettant des groupements électro-attracteurs et une oléfine. Et là, donc, on peut faire, une fois de plus, c'est le même mécanisme, à 2+2, plus extension. Et donc, on obtient ces réactions qui peuvent être utilisées pour fonctionnaliser des hétérocycles. Donc une fois de plus, là, le meilleur photocatalyseur, c'est l'iridium. Réaction peut être régiosélective, il y a pas mal d'exemples. Je ne vous ai pas montré beaucoup les exemples. Ce qui m'intéressait le plus, c'était l'étude mécanistique, qui est assez intéressante parce que il peut y avoir deux états triplés qui sont mobilisés, soit celui de l'oléfine, soit celui de l'énamine. Sachant que les états triplés ont été modélisés, donc ici 48 kcal par mol, ici 54. Et ce qu'on voit ici, c'est les courbes de quenching avec deux photocatalyseurs différents, soit cet iridium pipi, soit celui-ci. Et en prenant celui qui a la plus basse énergie, il n'y a qu'un seul partenaire qui répond très bien, qui quenche très fortement, c'est l'énamine. En prenant un photocatalyseur, on va dire qu'il tape un peu plus, les deux quenchent. Le styrène quenche plus fort, mais globalement, au vu de cette étude et d'autres modélisations et ainsi de suite, il privilégie le passage par l'état triplé en fait, de l'énamine. Alors, donc, si on va sur l'acétone elle-même, parce que bon, donc on avait dit alcène, énon, maintenant on enlève la double liaison, donc on arrive sur le groupement carbonyle, on va dire nu. Ici la transition qui est possible, c'est une transition NP étoile. Désolé. Et globalement, on va avoir une réactivité qui s'apparente toujours à un diradical comme ça, sauf que là, le passage à l'état triplé n'est pas toujours automatique. C'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de réactivité des cétones, soit à l'état singulé, soit à l'état triplé. Le epsilon, j'en ai déjà parlé, c'est en fait, on a cette NP étoile, donc on change de système orbitalaire, c'est pas favorable, ainsi de suite. Bon, ça, on l'a déjà dit. Donc, qu'est-ce qui va décider qu'on passe, qu'on reste à l'état singulier ou état triplé? Ça va être beaucoup la substitution de l'acétone. Typiquement, dès qu'on va avoir des noyaux aromatiques, on va être à l'état triplé facilement. Parce que, comme vous le savez, généralement, pour favoriser la règle de El-Sayed, là, au contraire, c'est l'inverse. Il faut faire un changement de système orbitalaire. Et donc, idéalement, le NP étoile, il faut le transformer en PP étoile. C'est pour ça que quand on revient sur un système NP étoile, ici, par exemple, le croisement intersystème va être particulièrement lent, et c'est le cas avec des groupements alkyles. Donc, globalement, la chimie, la photochimie des cétones photoexcités sera à l'état singulier si c'est des groupements alkyles. Par contre, dès qu'on est en groupement aryl, on a le passage possible vers une pipi étoile d'un T2 dont l'énergie est proche. Et une fois qu'on est à ce T2, on a la désexcitation classique par conversion interne, hein, dégagement de chaleur, et ainsi de suite. Et on arrive donc à l'état triplé très facilement. Et là, c'est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est important. Donc les réactions ici sont variées au niveau des cétones. On va avoir des 2 plus 2, donc la réaction de Paternò-Lucci, des réactions de clivage, donc les réactions de Norrish, 1 ou 2, des réarrangements, et ainsi de suite. Alors la réaction de Paternò-Lucci, ils sont deux évidemment, Paternò, bien avant Lucci. Paternò était intéressant, donc c'était un Italien, même un Sicilien qui a fait une bonne partie de sa carrière à Palerme, il a même été maire de Palerme. Il a été nommé professeur à Rome pendant quelques années, dans les années 30 à Rome, mais il n'aimait pas l'ambiance, on va dire, fasciste à Rome à l'époque, donc il est retourné en Sicile. Et c'est donc le premier qui a, dans ce Gazzetta Chimica Italica, là, qui a montré cette réaction qui permet de construire ces cycles à 4 oxygénés qui sont donc des oxétanes. Et Bucci, lui, a confirmé un certain nombre de ses réactivités, il les a rationalisées. Et donc, lui était professeur, c'est un Suisse professeur au MIT. Donc, voilà un mécanisme potentiel écrit, on va dire qu'il a le mérite d'être simple et facile à retenir, probablement pas tout à fait exact. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est important, ces histoires de singulés ou triplés pour les cétones, c'est que ça va conditionner un certain nombre de choses, et notamment les stéréospécificités des réactions. Donc, quand vous partez d'une dialkylcétone ou des alkylaldéhydes comme ça, et que vous mettez, par exemple, ce Z-butène ou ce E-butène, vous allez former des oxétanes qui vont être des diastéréoisomères. Et donc, dans le premier cas, vous voyez que vous avez respecté la stéréochimie de cette double liaison. Vous formez le composé 6, ici vous formez le composé 7 trans, mais globalement donc, c'est complètement stéréospécifique et donc c'est vraiment la réactivité singulée, c'est-à-dire vraiment c'est une réaction concertée. Okay, donc ça c'est important. Alors que si vous êtes avec une diaryl-cétone ou même souvent même une monoaryl, ça suffit, vous allez obtenir la même mélange d'oxétane 6 trans. Parce qu'en fait, vous passez par un intermédiaire biradicalaire, comme on l'a écrit ici, et donc vous avez des rotations et tout ça, ça s'isomérise, et donc globalement, vous ne respectez pas la stéréochimie des doubles liaisons. La régio-sélectivité, là aussi, pas vu vraiment de choses si évidentes que ça, mais on peut se dire que si on passe par un état excité qui ressemblerait à ce dit radical, on peut vraiment le concevoir pratiquement un peu comme la théorie de l'exiplex de Corée, où on a les effets polaires qui jouent, où ce haut point très électrophile va préférer s'additionner ici sur cette oléphine enrichie de cette façon, pour donner ce régio-isomère. Et là, au contraire, son anoléphine appauvrie, c'est cette interaction ici qui va être prépondérante pour former donc, cette liaison carbone-carbone. Et donc, voilà, c'est ce qu'on voit ici avec l'acrylonitrile. On passe par cette approche ici en bleu, alors qu'ici, on a une double qui est relativement nucléophile, et donc on va privilégier plutôt cette attaque sur ce carbone et donc former ces oxétanes avec cette régio-sélectivité. Donc là aussi, il y a eu des revues, notamment par Norbert Hoffmann, qui sont assez intéressantes. Récemment, l'intérêt a été plus d'aller vers le ASA paternobucci pour faire des azétidines, qui sont des molécules assez intéressantes d'un point de vue pharmacologique, et sur lesquelles finalement les approches synthétiques n'étaient pas toujours si simples. Donc bon, évidemment, on peut avoir une substitution de ce type-là intramoléculaire pour former un azétidine. On peut aussi réduire un bêta-lactame. Comme vous le savez, il y a un gros développement sur tous ces composés, là, des bicyclobutanes et ainsi de suite. Donc là, on a cette liaison centrale ici qui est très réactive, donc il est assez facile de la rompre pour ouvrir et donc introduire un substituant sur le bord, sur l'azote ici, et cliver cette liaison azote-carbone. Et ici, l'idée, c'est de faire une cycloaddition 2 plus 2 entre une oléfine et donc une imine, et plus particulièrement d'ailleurs un oxime. Donc c'était quelque chose qui était un petit peu connu, mais il y avait un certain nombre de problèmes. C'est que d'une façon générale, quand on excite des dérivés d'imine, ils ont tendance à s'isomériser très vite, donc on perd la stéréochimie, la double liaison. Donc l'autre idée, c'était de le faire en intramoléculaire et de photosensibiliser soit un alcène ou avoir un oxime dans un cycle pour avoir des choses un petit peu plus contrôlées. Et donc ça a été fait. Et l'objet de ce travail ici par Schindler, en fait, c'est de s'attaquer à l'ASA paterno-bucci, mais avec des systèmes complètement acycliques. Et donc en utilisant des oxymes acycliques et des systèmes, quand même des alcènes activés, des motifs type styrile, et donc de jouer sur cette interaction ici orbitalaire dans les états de transition pour conduire de façon régiosélective à ces azétidines. Et donc là, le mécanisme proposé, c'est de photoactiver l'alcène et d'arriver à son état triplé qui interagit avec la LUMO de l'oxyme. Donc c'est une réaction qui était assez qui manquait. Donc dans ce science ici, j'ai pas mis tout le scope parce que bon, il y aurait besoin de plusieurs slides, même si les rendements sont pas toujours extraordinaires. Je vous ai montré un autre exemple en intramoléculaire quand même qui avait été développé, qui a été aussi une des étapes importantes dans ce ASA paterno. Donc c'est ce travail là par Sivaguru, parce qu'en fait c'est aussi cet article là c'est un des exemples intéressants en intramoléculaire. Voici donc un exemple ici par Schindler, là aussi une application en synthèse totale au produit naturel pour faire cette azétidine hydroxylée qui est présente dans cette famille de produits naturels. En fait, ce sont des molécules qui sont extraites d'éponges des mers du Vietnam avec un certain nombre d'activités. Donc globalement, l'étape clé, c'est la 2 plus 2 ici entre cet éther d'énol, enfin ce vinyle éther et cet oxime. Et donc elle est complètement régiosélective et stéréosélective en présence d'iridium comme photocatalyseur. Et après hydrogénolyse, on obtient 47% donc de ce produit. Donc ça reste quand même une approche assez intéressante pour former ces azétidines. Alors, Norrisch, le voici, donc Ronald Norrisch, professeur à Cambridge, prix Nobel en 1967, parce que c'est un des contributeurs sur la flash photolysis, et c'est aussi celui qui a proposé deux réactions, qui sont la réaction de Norrisch 1, qui est le clivage de ces cétones quand elles sont excitées, pour former deux radicaux, et de la Norrisch 2, qui est une autre excitation de la cétone ici, pour évoluer sur ce diradical. Mais en fait, ce qu'on passe ici, si vous reconnaissez, c'est que si on forme le diradical ici, donc carbone point haut point, le haut point va faire un transfert d'hydrogène 1,5, va prendre l'hydrogène ici, et donc d'où ce diradical. Okay, et maintenant, ce diradical a plusieurs voies d'évolution. Il peut soit fragmenter, donc ici on fragmente cette liaison simple et on obtient ces deux oléfines, ou on peut recombiner ces deux radicaux et former ces cyclobutanols. Bon, entre autres, parce que vous allez voir qu'on va montrer d'autres voies d'évolution possibles. Donc, ce qui va distinguer, en fait, ces deux réactions de Norrish, c'est la possibilité ou non de faire un transfert d'hydrogène 1,5. Si vous avez ça, vous allez plutôt avoir la Norrish 2, enfin, une évolution type Norrish 2. Si vous n'avez pas de possibilité de transfert d'hydrogène, vous serez plutôt sur des Norrish 1. Sachant qu'on va voir qu'il y a quelques exemples où on a du transfert d'hydrogène, mais qui n'est pas 1,5. Alors, voilà les papiers historiques de Norrish. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que ces réactions paraissent plutôt dégradatives que constructives. Mais on va voir quand même qu'elles peuvent l'être. Mais c'est aussi ces fragmentations-là qui vont être intéressantes, notamment pour, on le verra dans le prochain cours, pour faire des photoamorceurs de polymérisation. Ça engendre des radicaux qui vont pouvoir déclencher des photopolymérisations et ainsi de suite. Donc en fait, c'est une chimie qui, sans jeu de mots, est très riche, même si, a priori, le nom ne l'indiquait pas. Et voici la Norrish 1 avec un petit peu plus de détails. Donc d'une façon générale, j'ai peut-être allé assez rapidement là-dessus, mais vous allez évidemment, si on fait le diradical ici, donc on va voir ces fragmentations et on a deux possibilités. Et globalement, d'une façon générale, ce qui va diriger la régiosélectivité de l'ouverture du clivage, ça va être la stabilité du radical qui est formé. Donc on va en fait généralement former le radical le plus stable ici, donc par exemple ici. Alors celui-là, lui, il peut faire beaucoup de choses. Et souvent, ce qui arrive, c'est la décarbonylation. La décarbonylation radicalaire se fait. En fait, un radical s'additionne facilement sur un CO, mais on peut aussi perdre un CO sur un radical acyle. Et dans ce cas-là, on a deux radicaux alkyles qui peuvent recombiner. On peut aussi perdre un hydrogène ici. Soit c'est lui qui vient le prendre, par exemple. Et dans ce cas-là, on fait un cétène. Ce cétène est très électrophile. Et donc, s'il y a un nucléophile dans le milieu, il va pouvoir être piégé. Souvent, c'est le solvant qui va faire ça, le méthanol, et on va faire des esters. Et on peut hydrogéner, évidemment, les deux partenaires. Donc là, typiquement, lui a servi à hydrogéner lui. Donc, voilà. Donc, on peut quand même avoir des mélanges assez complexes. Donc, comme je vous dis, a priori, ça fait une réaction qui apparaît plutôt complexe que réellement constructive. Mais malgré tout, ça marche assez bien. Donc par exemple ici en prenant cette éthylméthylcétone, Norrish s'est rendu compte qu'on engendrait de l'éthylène et de ce formaldéhyde, donc on forme ici le radical éthyl qui ensuite est hydrogéné. Donc ouais, il a mis aussi le montage ici, donc c'était sa lampe ici au mercure, les produits étaient là, ils se condensaient, en fait on les récupérait ici. C'est la littérature assez ancienne, mais c'est toujours rigolo de regarder ça. Alors, quelques réactions de Norrish variées. On en a déjà un petit peu parlé, comment la réactivité en solution ou en solid state peuvent être très différentes. Et c'est le cas ici, si on prend cette cétone ici d'hydroxylée, en fait, on va facilement enlever le CO et former deux types de dérivés cycliques ici. Où les hydroxyles peuvent être soit en trans, soit en cis, et de façon non surprenante, si on va obtenir très très majoritairement le cis, si on fait cette photochimie à l'état solide, parce que globalement, il n'y a pas le temps pour le diradical qui est formé d'avoir des rotations, et donc ça va se recombiner tout de suite. Par contre, si vous êtes en solution, vous allez avoir un mélange des deux diastéroisomères cis et trans dans un mélange 1-1. Donc ça c'est des travaux de Garcia Garibay qui a beaucoup étudié ce genre de chimie à l'état solide, mais globalement on peut avoir un très très bon contrôle donc, de la formation de ces cyclopentanediols. Ça je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est les évolutions possibles de la Norrish 1. Donc globalement ici on compare les énergies de liaison. Et donc vous voyez que rompre un phényl sera particulièrement difficile, méthyl également, mais évidemment plus c'est substitué plus c'est facile, et donc typiquement ici si vous devez rompre au niveau, si vous devez avoir un clivage, le clivage majoritaire que vous ferez évidemment il est ici. De la même façon si vous avez cette cétone cyclique, majoritairement, votre clivage se fera ici, parce que c'est le radical le plus stable, et celui-ci a plusieurs voies donc d'évolution, donc on peut avoir une hydrogénation de ce radical. En fait, un hydrogène d'ici va sur l'aldéhyde, et un hydrogène d'ici, dans ce cas-là, en fait, l'hydrogène d'ici va sur l'aldéhyde et ça fait la double liaison, ça fait ce produit-là. Ou inversement, l'hydrogène qui est ici va ici, et dans ce cas-là, on fait le cétène, dans ce cas-là, ça fait la double liaison ici. Et donc ce cétène, bon, après, comme je vous ai dit, peut être piégé par un nucléophile. Si on prend la cyclobutanone dans le méthanol, par exemple, on va obtenir tous ces produits, tout simplement parce que on a en fait la possibilité. On a ça, on forme ça, et si on perd le CO, et dans ce cas-là, on se retrouve avec un radical ici qui recombine pour former le cyclopropane, soit on a un hydrogène, l'hydrogène qui est ici, vient ici, et donc, ah oui, donc, ou alors on peut aussi avoir la rupture, excusez-moi, dans ce cas-là, c'est la rupture, on va avoir cette rupture, on va former de l'éthylène et le cétène. Donc l'éthylène n'est pas marqué, mais bon, on va l'avoir. Et donc, le méthanol va s'additionner ici. Ou, globalement, on peut avoir ce radical qui, en fait, s'additionne sur ce carbonyl. Et on va former ce carbène ici, qui lui-même fait une insertion dans l'oxygène, la liaison oxygène hydrogène, enfin de l'alcool dans l'alcool pour obtenir donc cet acétal. Donc voici des produits possibles. Alors celle qui est plus intéressante comme réaction, c'est ce qu'on appelle la Norrish-Yang, Norrish-Yang, pour former des cyclobutanols. Parce que globalement, dans ce cas-là, on recombine donc ces deux radicaux pour former ça, sans toutes les réactions de clivage. Et pour que cette formation de cyclobutanol ait lieu, il faut quand même une rotation, et donc arriver dans une conformation qui n'est pas favorable, puisque l'anti-L est favorable, donc l'anti-L conduit au produit d'élimination, fragmentation, et ainsi de suite, alors que celle de cyclisation n'est pas favorable. Et si vous êtes avec un radical qui est singulé, généralement vous arrêtez là, vous faites pas mal d'élimination, fragmentation. Si vous êtes un radical triplé, au contraire, vous donnez cet intermédiaire biradicalaire a le temps d'évoluer en conformation et donc de conduire à une conformation cyclisante pour former la Norrish-Yang. Donc là, c'est une réaction qui a été pas mal utilisée. Voici un exemple par Baran, qu'il a utilisé dans cette synthèse de ce stéroïde. La wabaginine, et donc on a une Norrish-Yang ici, globalement. Alors d'abord il fait l'acétal, il protège cette cétone et il arrive à exciter sélectivement celle-là, et on fait ce cyclobutanol. Alors ça, il le fait à l'état solide, hein, par contre à l'échelle du gramme, donc vous voyez c'est quand même assez puissant. Et après, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a ces dérivés-là, après c'est intéressant de les ouvrir. Donc ça, c'était la structure RX de ce dérivé-là. Il se trouve que la longueur de liaison ici, la A, qui veut cliver, est plus longue que la B, donc ce qui est plutôt a priori favorable. Toutefois, ils ont mis pas mal de temps avant de trouver des bonnes conditions pour faire ça. Et la meilleure qu'ils aient trouvée, c'est en fait de se mettre dans des conditions NIS. Donc on a une source de I+, donc en fait globalement on fait un intermédiaire oxygène-iode qui est extrêmement labile photochimiquement et va en fait former un radical, on va former le radical au point ici qui du coup fragmente du bon côté, et puis le radical on fait vraiment ça, hein. Donc on forme ce radical ici, et puis lui après récupère un iode puisque lui-même vient a priori de quelque chose comme ça, d'un hypoiodite. Donc ça, c'est un exemple de Norrish-Yang, donc il y en a d'autres. Je ne sais pas si tu veux en parler, David, de ça aujourd'hui. Mais donc voilà, donc un exemple du groupe de David et de Thomas Bodert qui est assez Très élégant parce qu'en fait, il permet de faire du Paterno Bucci Tia, qui est celui qui est assez compliqué quand même à faire. Il y avait quelques publications dans la littérature, mais ce n'est pas une réaction très très connue, en utilisant justement une Norwich 2, où donc l'idée c'est on part de ce type de dérivé. On a le transfert 1,5, et quand le radical est là, en fait, il fragmente et il libère ces thiones qui vont, elles, ensuite s'engager donc, dans une 2 plus 2 photochimique pour former donc, ces thia oxétanes. Et donc, globalement, la réaction s'est montrée très régiosélective par ailleurs, et avec des bons rendements. Et donc là, c'est vraiment deux en un. On utilise la chimie à la fois pour libérer un précurseur qui lui-même réagit de façon photochimique, donc deux étapes photochimiques en une seule séquence pour former des molécules qui seraient particulièrement difficiles de faire autrement. Et donc, cette photochimie là, des thiones est un petit peu connue, mais a priori, c'est un état S2 qui est impliqué et qui explique aussi la régiosélectivité observée. Alors, je vous disais, donc, la Norwich 2, principalement, transfère 1,5 à partir du radical au point. Mais ici, on a quelques exemples où on va faire des transferts un petit peu autres. Typiquement, ici, le au point qu'on engendre va faire plutôt un transfert 1,6 et ça va recycliser derrière. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne fait pas un cyclobutanol, mais on fait un cyclopentanol. Donc là, c'est un transfert d'hydrogène 1,6 à partir d'ici. Ou globalement, ici, on va faire un transfert d'hydrogène 1,4. Donc 1, 2, 3, 4. On va arracher l'hydrogène ici, puis ça se recombine pour former ces cyclopropanediols. Et puis, ce qu'a montré en fait donc ce groupe, c'est que évidemment, ce méthyle, lui, est aussi très actif. D'ailleurs, ça, on va voir des applications de ça. Donc ça donne ce produit, parce que globalement on va faire le radical ici, qui va se recombiner avec le radical ici pour faire ce cyclobutanol. Donc là c'est vraiment la Norwich Yang, on va dire classique. Et puis il y a aussi ce produit d'oxydation, parce qu'en fait ces cyclopropanols, diols ne sont pas très stables, et visiblement se s'ouvrent pour aussi s'oxyder. Enfin tout ça pour dire qu'on peut aussi faire la Norwich avec un transfert d'hydrogène potentiellement autre que le 1,5 s'il est activé. Et voici un bon exemple. Je m'arrêterai peut-être là d'ailleurs aujourd'hui parce que je vois le temps qui file. Les transferts d'hydrogène, alors là, très 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 long, puisque là on a un transfert d'hydrogène 1,16. Vous voyez, c'est a priori quelque chose qui est particulièrement éloigné. Donc c'est à Breslau. Breslau, c'est un peu vraiment le père de la chemical biology, donc qui était inspiré par toutes les réactions enzymatiques d'hydroxylation enzymatique sur les stéroïdes. Donc ici, par exemple, cette voie là pour la cortisone. Et donc, il rêvait de faire quelque chose de relativement bio-inspiré pour fonctionnaliser donc des stéroïdes en utilisant une voie chimique de type Norwich. Donc l'idée ici, c'est on prend des stéroïdes, on met ce bras ester avec une benzophénone qu'on irradie. La benzophénone va faire le diradical. Ce haut point ici a pas mal de... On verra que cette chimie ici des benzophénones est très, très viable, mais il est très réactif et va arracher sélectivement l'hydrogène qui est ici, en cette jonction de cycle. Et puis après, il y a une oxydation pour former donc ce dérivé stéroïde fonctionnalisé. Alors, dans cette étude, dans ce JAX, il a fait donc ses modèles à l'époque. Donc il n'y avait pas vraiment de modélisation, mais c'est les modèles CPK en place, avec des boules et ainsi de suite. Mais en fait, qui, mine de rien, sont quand même très, très. Donnent une très, très bonne idée, là, évidemment, de la géométrie des molécules. Donc voilà le noyau de stéroïde. Voici le bras ester ici. Et évidemment, le nombre de cas où ça a bien marché a été assez limité, puisqu'il a regardé la longueur du lien, et c'est celui-là qui donne le meilleur résultat. Oui, et donc j'ai aussi parlé de deux autres cas de variation de la Norwich 2. Ici, en fait, quand on excite ici ce carbonyle, on fait le transfert d'hydrogène 1,5. Mais dans ce cas-là, on a un groupement partant ici comme de type mésylase. Et donc, en fait, très facilement, on va avoir une concertation, enfin une élimination concertée d'acide méthane sulfonique et pour conduire à se dire radical et former ces cyclopropanes. Donc, en fait, c'est assez intéressant de voir cette transformation qui n'était pas évidente. Et cet article de Weiner qui est intéressant, pas tellement synthétiquement, mais qui utilise la Nourish 2 là, comme un outil, comme une sonde pour de la cinétique. Donc l'idée ici, c'est que vous mettez des groupements X et vous voulez mesurer la cinétique de bêta-élimination de ce groupement X, sous la forme X point, quand vous avez un radical en bêta. Parce que vous savez, la bêta-élimination radicalaire, c'est particulier, c'est propre à un certain nombre de substituants. Donc il a regardé, il a mis un chlore ici, un brome, un iode, tous ces dérivés. Et donc, il a comparé ces cinétiques. Alors, effectivement, vous pouvez aussi avoir la fragmentation au milieu, mais c'est ce produit-là qui l'intéressait. Et donc, il a pu classer les groupements partants. Comme vous le voyez, c'est l'iode qui est de loin le meilleur groupement partant. Si on met une vitesse relative de 1 au chlore, brome part mieux, I point part encore mieux. Après, les dérivés soufrés sont quand même généralement assez bons. Sachant que les meilleurs, c'est les groupements sulfinyles, notamment dès que vous mettez des aryles aussi, ça accélère beaucoup. Les sulfones peuvent aussi être éliminés. C'est des données qui sont assez utiles du coup pour la chimie radicalaire et pour prévoir des réactions de bêta-élimination. Allez, encore ça et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Et une autre très belle réaction avec beaucoup d'applications, c'est de partir sur ces systèmes très particuliers où vous avez une cétone et un groupement ici en ortho sur un noyau aromatique, puisque si vous faites le diradical, vous allez pouvoir engendrer, le diradical ici sur le carbonyle va pouvoir évoluer après transfert d'hydrogène à 5 en diradical suivant, qui en fait, si vous écrivez une structure limite, correspond à ces ortho-kinodiméthane. C'est avec ces intermédiaires, et vous allez reconnaître qu'ici vous avez un diène de disaldère qui est très 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 réactif, puisque s'il fait la disaldère, il va vouloir se réaromatiser très facilement. Donc, si vous êtes en état singulier, vous allez respecter ces stéréochimies, vous allez obtenir cet intermédiaire-là, mais si vous êtes en état triplé, ce qui est quand même souvent le plus le cas, vous allez obtenir cela. Malgré tout, on peut utiliser ça. Donc voici une utilisation par Nicolas Hou, où globalement, il va pouvoir former ses dérivés polycycliques par cette séquence Norish 2 disaldère intramoléculaire. Donc il arrive à des produits naturels ici qui ont des propriétés antitumorales, en fait, isolés là aussi d'éponges marines en Nouvelle-Zélande. Et donc globalement, déjà il y a une première chose, c'est que la double liaison ici est isomérisable fortement. Donc ça va conduire évidemment aux deux produits potentiels de disaldère, qui sont donc diastéroisomères. Et après, globalement, donc on fait le haut point ici, il va arracher l'hydrogène ici, on fait in situ donc ce diène très réactif qui va s'engager dans la disaldère intramoléculaire pour conduire soit ce produit-là, soit ce produit-là, selon la stéréochimie du diénophile. Donc, ça permet quand même de faire des réactions. Si on vous demandait de faire ça à partir de ça, c'est pas si évident que ça, quoi. Mais le schéma est trop synthétique et assez séduisant, quoi.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. Collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.